on nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. » Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11 heures, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les deux heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien sur le Canu Info et sur le Canu Info du lundi 28 avril. On est ravis de vous retrouver ce soir pour une émission qu'on a concoctée aux petits oignons.
Et oui, aux petits oignons, car des oignons, c'est donc il ne sera pas question à l'international puisqu'on parlera de choses qui nous font pleurer avec une hausse historique des dépenses militaires. Et ensuite, on ira au Pérou, au centre des appétits impérialistes et notamment la question d'un oléoduc qui est contesté par des communautés indigènes.
Au national, on parlera de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. On parlera aussi des 50 ans du hangar de Harinc et des centres de rétention administrative avec un petit reportage d'une manif à Dijon. Et enfin, du mouvement DDPF.
Et puis au local, on aura un petit reportage sur la manif qui a lieu en ce moment liée au meurtre d'Abou Bakar à Grand-Combe. Et puis on aura pour notre dossier du jour un reportage sur la manifestation qui a eu lieu à Lyon sur la situation au Congo.
Mais tout de suite, on commence avec les brèves. Et du côté du Maroc, même si le pays est à l'avant-garde de la normalisation avec Israël parmi les pays donc arabo-musulmans, le peuple marocain, lui, ne l'entend pas de cette oreille et refuse cette orientation largement collaborationniste. Après des manifestations dans tout le pays, notamment à Casablanca la semaine dernière, c'est à Tanger, au grand port du nord du Maroc, que plus de 1500 personnes se sont retrouvées pour dénoncer l'accostage d'un navire affrété par l'armateur danois Merckx, suspecté de transporter donc des pièces d'aviation militaire vers Israël pour massacrer le peuple palestinien. Les dockers de Tanger ont donc refusé de charger les porte-conteneurs. Ils ont le pouvoir d'empêcher les massacres impérialistes.
Autre brève, alors il y en a, on le sait, hein, mais ils savent définitivement, vachement bien, se placer, c'est fou, un truc de dingue. Laurent Berger, vous vous en rappelez, l'ancien secrétaire général de la CFDT, hein, pas un allié, pas un copain, loin de là, on l'a vu dans l'intégralité de son mandat, qui a donc quitté la direction de la CFDT en 2023, c'était déjà bien recyclé juste après en devenant directeur d'un think tank du Crédit Mutuel. Eh bien, devinez quoi, il prend désormais la tête de la banque CIC West, toujours dans la banque donc, en plus de son poste de directeur de think tank à la CFDT. On n'est jamais secrétaire général par hasard, agent de la bourgeoisie un jour, agent de la bourgeoisie pour toujours.
Et cinq policiers de l'antenne marseillaise du RAID, qui sont mis en examen pour avoir causé la mort, souvenez-vous-en, de Mohamed Bendriss lors des émeutes de l'été 2023 pour Naël, et qui sont aussi mis en examen pour l'éborgnement de son cousin, ont reçu pourtant la médaille de la sécurité intérieure remise des mains propres de ce sale fasciste de Rotaillot. Honte sur eux et justice pour toutes les victimes de violences policières.
Et tout de suite, on passe sans transition...
International.
Et on commence avec un sujet sur la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Ah non, c'est ça, c'est le national. On commence tout de suite par une hausse historique des dépenses militaires à l'échelle du monde.
Donc. Oui, du coup, c'est exactement l'inverse de la santé et de la sécurité, hein, puisque l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm vient de publier ce matin son dernier rapport sur les grandes tendances des dépenses militaires dans le monde. Alors, selon cet institut de recherche indépendant, les dépenses militaires mondiales atteignent 2718 milliards de dollars en 2024. À titre de comparaison, c'est l'équivalent de la valeur annuelle de toute la production française pendant une année. Fait notable, l'institut démontre que les dépenses militaires ont augmenté de près de 10% par rapport à 2023. C'est la plus forte hausse annuelle jamais enregistrée depuis au moins la fin de la guerre froide. Alors si 2024, c'est certes une année record concernant l'explosion des dépenses militaires, c'est quand même au niveau mondial la 10e année consécutive de hausse des dépenses d'armement. Jamais, historiquement, les nations n'ont autant dépensé pour se faire la guerre. Même lors de la Seconde Guerre mondiale ou même lors de la guerre froide, les dépenses totales d'armement au niveau mondial étaient inférieures. Alors, quel est le continent qui explique le plus la hausse des dépenses d'armement ? Eh bien, c'est l'Europe, bien sûr, c'est notre chère Europe, où les dépenses militaires ont encore augmenté de 17% l'année dernière pour atteindre près de 700 milliards de dollars. C'est à nouveau un niveau jamais atteint. Au sein de l'Europe, les pays européens membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, ont dépensé 450 milliards de dollars en matière militaire. C'est plus de trois fois le budget de l'armée russe, dont le budget atteint environ 150 milliards de dollars. Et bien sûr, la palme de l'armée la plus coûteuse du monde revient comme toujours aux États-Unis d'Amérique, qui totalisent plus d'un tiers des dépenses militaires mondiales, 997 milliards, quasiment 1000 milliards, donc c'est 1-1 avec 12 zéros derrière. 1000 milliards de dollars dépensés tous les ans en canons, en soldats, en missiles et en chars d'assaut pour assurer l'impérialisme. Alors qu'on se rassure, autant des dépenses publiques n'est pas allé dans de mauvaises poches. Parallèlement à la hausse des budgets publics d'armement, les revenus provenant de la vente d'armes et de services militaires par les 100 plus grandes entreprises mondiales ont atteint 632 milliards de dollars en 2023. Le chiffre d'affaires combiné des ventes d'armes des entreprises européennes, 27 entreprises européennes dans le top 100 des marchands d'armes, s'est élevé à 133 milliards de dollars. C'est en gros l'équivalent de deux fois le budget de l'éducation nationale en France. Et sous l'effet de la guerre en Ukraine, les producteurs européens d'armes ont vu leurs revenus augmenter fortement. Par exemple, on pense à l'allemand Rheinmetall qui a augmenté sa capacité de production de munitions de 150 mm et ses livraisons de chars Léopard. Les actionnaires européens bénéficient pleinement des dizaines de milliers de morts en Ukraine. De l'autre côté de la ligne de front, les deux entreprises russes figurant dans le top 100 des marchands de morts ont également vu leur chiffre d'affaires combiné augmenter de 40% en un an, notamment par la production d'hélicoptères, de drones, de chars, de munitions et de missiles. Depuis 10 ans, les dépenses militaires des pays de l'OTAN ont plus que doublé, plus 107% en moyenne, pour le meilleur bénéfice de l'impérialisme américain, bien sûr, parce que Washington vend ses armes principalement aux Européens qui les dépensent ensuite dans des guerres inutiles. Alors à l'heure où toute l'Europe se réarme pour préparer la prochaine boucherie, un seul pays en Europe n'a pas augmenté ses dépenses militaires cette année, il s'agit de Malte. Et enfin, l'autre tendance majeure en 2024, c'est la hausse des dépenses militaires au Proche-Orient, dont la quasi-totalité est la responsabilité d'un seul pays, devinez lequel ?
Les États-Unis.
Non.
Israël.
Bien joué. Les Israël, où les dépenses d'armement ont augmenté de 65% en un an. C'est la plus forte augmentation depuis la guerre des six jours. La hausse de sa production mortifère d'armes permet au gouvernement de poursuivre le génocide en cours. La revue scientifique The Lancet estime qu'environ 3% de la population de Gaza est décédée suite aux actions de l'armée israélienne. C'est un chiffre supérieur aux données communiquées publiquement par le ministère de la Santé du Hamas.
Et enfin, parce que les génocides profitent toujours aux actionnaires, 2024 est désormais l'année aussi de la plus forte hausse des profits pour les trois plus grandes entreprises israéliennes d'armement. 13,6 milliards de dollars engrangés grâce au massacre du peuple palestinien.
Impérialisme militaire, certes, mais aussi impérialisme énergétique du côté du Pérou.
Oui, le Pérou, donc pays d'Amérique latine, n'en finit plus d'être au centre des appétits voraces impérialistes d'un certain nombre de puissances et de leurs multinationales. Alors, pour info ou rappel, en 2021, et d'ailleurs à la surprise générale, M. Pedro Castillo remportait les élections présidentielles. Castillo, il est de descendance indigène, issu de la pauvreté, hein, des classes laborieuses, membre du parti Pérou Libre, parti ancré très à gauche et notamment issu du marxisme-léninisme. Cette victoire, elle est vue à ce moment-là comme inacceptable par les élites politiques, globalement racistes, conservatrices et néolibérales, soutenues par les États-Unis, très influentes sur la classe politique péruvienne et ses élites militaires. À partir de ce moment-là, tout va être fait pour destituer Castillo, ce qui sera d'ailleurs chose faite en décembre 2022, on vous passe les détails, hein, mais depuis c'est Dina Boluarte qui est au pouvoir, qui est une conservatrice donc. Les multinationales occidentales et chinoises se partagent le bout de gras du pays, du Pérou. Depuis plusieurs années, par exemple, la Chine investit massivement, notamment dans les infrastructures portuaires. Début 2024, Boluarte et Xi Jinping ont inauguré un gigantesque port commercial à Shanghai pour la modique somme de 3,4 milliards de dollars. Tout ça construit en 10 ans. Ce port est devenu la pièce maîtresse du dispositif logistique et commercial de la Chine et du principal opérateur minier péruvien en lien avec les multinationales du secteur de l'extraction minière. Les 65 000 habitants et habitantes de la ville auront eu beau manifester pendant toutes les années de la construction du port et encore ces derniers mois, et ce malgré les belles promesses de Boluarte, il n'y a aucun service public fiable dans la ville et l'État y est quasiment inexistant. Ce port est d'ailleurs aujourd'hui l'épicentre des conflits impérialistes entre la Chine et les États-Unis, puisque après le Mexique et le Panama, Trump veut riposter au Pérou. Le Pérou, c'est aussi un pays où les compagnies pétrolières prospèrent, notamment en Amazonie. Les scandales écologiques y sont récurrents à cause de fuites massives d'hydrocarbures dues au manquement des compagnies. Il y a eu par exemple deux marées noires très importantes en 2022 et en 2023. Les terres indigènes d'Amazonie sont régulièrement empoisonnées, et notamment les cours d'eau. La dernière pollution en date remonte au 19 mars dernier et a frappé 3800 familles, sans aucune réaction des autorités nationales. Ce 21 avril dernier, 500 membres de la communauté Awahun du district de Manseriche ont pris d'assaut un oléoduc. Ils réclament des aides d'urgence pour faire face au fléau des marées noires. Depuis, leur porte-parole a carrément annoncé une grève et une prise de contrôle territorial de l'oléoduc, bloquant ainsi tous les moyens de transport. Ces mobilisations des communautés indigènes, elles sont régulières contre les compagnies pétrolières et minières et le gouvernement conservateur péruvien. Derrière ces compagnies, il y a Petroperú, compagnie péruvienne, mais aussi de très nombreuses multinationales occidentales, chinoises, et dont une qu'on connaît un petit peu ces dernières années, qui s'appelle Perenco, qui est anciennement dirigée par le papa de notre ministre de la Transition écologique et du climat, Agnès Pannier-Runacher. Bref, au Pérou comme ailleurs, abat les impérialismes, les multinationales écocidaires, les gouvernements conservateurs et vive les luttes pour la survie et la répartition des richesses du peuple péruvien.
Et on fait une petite pause musicale, non ?
Absolument. On écoute tout de suite Novan Aparar du groupe Nacidos de la Tierra.
Este parque cada día pisa fuerte con su rap sin igual, sin influencias. Es nuestra ciencia traer la conciencia y realidad a nuestra audiencia. Y con diferencia, de eso se trata en realidad, esa es la esencia. Así que aprenda a respetar que hemos venido a disfrutar y es nuestra fiesta. Somos nacidos de la tierra y venimos desde Valencia, pero en verdad nos representa todo aquel que esté dispuesto a disfrutar de buena música en cualquier lugar, de buenos ritmos con los que pensar, sin competencia, con buena ambiente y con gente que sienta
y que sienta lo que nosotros.
No van a parar,
y que sienta lo que nosotros.
No van a parar, no van a parar, pararnos, mucho de tener que hacer. No, no, no van a pararnos, no lo pueden hacerlo. Solo tuvimos entre bases líneas que acompañan todo lo que tengo dentro. Aquello que el corazón dice es lo que de pronto fluye en mis manos hoy. Con ellos es que subo, sé que intuyo cada palabra que digo fluyo. Y solo espero a quienes brillen, sí, como yo, positivos. Y que sientan lo que nosotros.
Que sentirlo,
no van a pararlo.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi 28 avril. On vient d'écouter Novan a Parar du groupe Casu Nacidos de la Tierra, groupe péruvien. Et on passe tout de suite au... au National.
National.
Ça, c'était le générique.
Et au national, on commence par la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail.
Ouais, à l'occasion de la Journée mondiale donc de la santé et de la sécurité, on fait un petit point sur la mortalité au travail. Car s'il est difficile d'oublier que le travail repose sur des rapports d'exploitation entre possesseurs de capital et forces productives, patrons et salariés, on oublie trop souvent que le travail tue directement. Les capitalistes ne font pas que s'engraisser sur le dos de celles et ceux qui sont obligés de taffer pour eux. Ils imposent aussi, au nom de la productivité, des conditions de travail qui mettent nos corps en danger, parfois mortellement. Faire du profit sur le dos des pauvres a un coût, le prix de l'aliénation, certes, on passe notre vie à la gagner, mais parfois aussi le prix de la vie. Car en France, 2 personnes par jour ne rentrent jamais du travail. Notre pays est l'un de ceux où l'on meurt le plus à l'échelle européenne. En 2023, ce sont 759 personnes qui ont perdu la vie à la suite d'un accident professionnel, selon le dernier rapport de l'assurance maladie paru en décembre 2024. Un chiffre en hausse, c'est 21 personnes de plus qu'en 2022, et c'est sans compter les accidents de trajet entre le domicile et le lieu de travail, c'est sans compter aussi les maladies professionnelles. Avec tout ça, on dénombre 1287 fins de vie en 2023. Et encore, sans prendre en considération les agriculteurs inscrits à la sécurité sociale agricole, sans prendre en considération les travailleurs indépendants ou encore les fonctionnaires. En 30 ans, pourtant, le nombre de morts au travail avait été réduit de moitié, en raison notamment de la désindustrialisation, d'une tertiarisation des emplois et d'une délocalisation des tâches les plus mortifères. Mais sous Macron, ce chiffre est reparti à la hausse. Pas besoin de trop se creuser les méninges pour faire le lien avec les multiples réformes néolibérales, à commencer par le démantèlement des comités d'hygiène et sécurité au travail suite aux ordonnances de 2017, et aussi suite à la suppression des critères de reconnaissance de la pénibilité dans de nombreux secteurs. La réduction des postes d'inspecteurs et d'inspectrices du travail et de médecins du travail n'ont pas arrangé les choses, sauf pour les patrons qui jouissent dans la matière d'une grande impunité. Cédric, mort après avoir chuté d'une hauteur d'environ 8 mètres depuis la passerelle où se trouvait le ballon de stockage, à la suite du décrochage soudain d'un garde-corps mobile dans la raffinerie Total de Gonfreville-Lorcher. Anthony, 41 ans, écrasé sous un paltisseur de la coopérative agricole de Terena. Tom, 18 ans, écrasé sous des kilos de volaille alors qu'il maniait un transpalette dans l'abattoir. Benjamin, mort après une explosion sur le site alimentant en carburant les fusées et missiles d'Ariane Group. Moussa, agent d'entretien, mort au sous-sol de l'Assemblée nationale. Depuis 2018, Mathieu Lépine donne un nom à ses statistiques glauques sur son réseau social. En 2025, il recensait déjà 71 victimes de cette hécatombe invisible. Sans surprise, les secteurs les plus touchés restent le transport, le BTP et l'agriculture. Du fait de leur précarité aussi, ce sont les salariés intérimaires où il y a deux fois plus de personnes exposées aux accidents du travail. Ces fins de vie tragiques sont un peu la pointe émergée de l'iceberg qui cache l'ampleur de la machine à broyer qu'elle travaille, notamment donc dans certaines professions. Ces morts ne sont d'ailleurs pas inéluctables. Elles sont tristement ordinaires et totalement évitables. Parfois médiatisées, comme lors de l'effondrement du Vélodrome lors d'un concert de Madonna en 2009 qui a fait 8 morts, la plupart restent invisibles et silencieux. Face à ces catastrophes, difficile d'obtenir justice. La lenteur des procédures juridiques, la criminalisation des défunts et le peu de volonté politique face à ses patrons empêchent la reconnaissance et la dignité de ces morts. Seul un tiers des infractions débouche en fait sur des poursuites. Les peines demeurent plutôt légères. 75% des patrons sont condamnés à du sursis et seuls 2% écopent de prison ferme. En fait, la responsabilité est diluée dans une longue chaîne d'emboîtements d'entreprises et de sous-traitances qui compliquent donc les procédures d'arrivée en justice. Ce qui n'empêche pas pourtant le collectif de familles Stop à la mort au travail de mener une véritable bataille jour après jour. Bref, on l'aura compris, les accidents du travail sont en réalité des accidents dus au travail. Le travail tue, mort au travail.
Et on continue au national avec la commémoration des 50 ans d'Arenc et une nouvelle construction de CRA à Dijon.
Oui, parce que la semaine dernière, on pouvait voir dans les rues de Marseille une magnifique campagne d'affichage qui rappelait qu'en avril 1975, soit il y a 50 ans aujourd'hui, était découvert à Marseille une prison clandestine qui opérait depuis les années 1960. En effet, dans contexte de fin de guerre d'Algérie, se met en place la politique de traque, d'enfermement et d'expulsion que l'État français poursuit toujours aujourd'hui à travers les centres de rétention administrative d'ICRA, qui sont des prisons pour les personnes étrangères. Enfin, en réalité, le contrôle et le tri des personnes étrangères en France remontent à la naissance de l'État-nation, donc au XIXe siècle. L'État exige des carnets spéciaux d'enregistrement pour les travailleurs étrangers pauvres, pour les surveiller. On pense par exemple aux travailleurs alpins qui étaient donc dits italiens qui venaient travailler du côté français. Et donc des frontières sont tracées dans les montagnes, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les Ardennes. Et ces travailleurs étrangers pauvres commencent à être montrés par les politiques et dans les médias comme des ennemis. On n'oublie pas les camps mis en place au moment de la guerre d'Espagne pour enfermer les familles, les militantes et les militants d'Espagne qui fuient la guerre et le franquisme. On pense notamment à celui de Rivesaltes, proche de Perpignan, fondé en 1935 et qui est un exemple glaçant. Donc après les Espagnols, ce camp enferme pendant la Seconde Guerre mondiale les populations juives, tziganes et les opposants et opposantes au régime fasciste, qu'ils soient franquistes, nazis ou pétainistes. Le camp ne ferme pas après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il est utilisé pour enfermer les familles de harkis pendant et après la guerre d'Algérie. Et puis il devient, de 1986 à 2007, un centre de rétention administrative. Donc on revient à ces CRA, au centre de rétention, donc on le rappelle, des prisons pour personnes étrangères, dont on découvre l'existence il y a 50 ans. Parce que du 11 au 20 avril 1975, Mohamed Chérif, un pêcheur de Marseille d'origine marocaine, disparaît après avoir répondu à une convocation au service des étrangers de l'hôtel de ville l'hôtel de police de Marseille. Son avocat s'inquiète et cet avocat, avec des journalistes, mène l'enquête et découvre un hangar à Arenc. Arenc, c'est des docks juste après la Joliette, juste au nord de la Joliette à Marseille. Et dans ce hangar, surveillé et géré par des gendarmes et la police, on enferme des étrangers, on n'a plutôt que des traces d'hommes, pour les expulser par bateau ou par avion. Cette affaire de la prison clandestine, elle fait du bruit et il y a une importante mobilisation populaire qui met en accusation le gouvernement de l'époque, présidé par Jacques Chirac. Mais la rétention administrative, donc l'enfermement des personnes étrangères pour seule faute d'avoir pas eu les bons papiers, sera finalement légalisée par le ministre Christian Bonnet en 1980. Depuis, elle n'a jamais été remise en cause, et certainement pas par les socialistes qui arrivent au pouvoir juste après, en 1980. Après, pourtant, s'être engagé, en tout cas publiquement, contre Arinck. Donc c'est véritablement les socialistes qui ont légitimé et institutionnalisé cette pratique d'enfermement et d'expulsion. Ces dernières années, on observe une véritable prise de vitesse à partir de Gérard Collomb, un ministre de l'Intérieur de Macron, qui décide en 2018 de faire passer l'enfermement de 45 à 90 jours. Et c'est aujourd'hui une actualité brûlante, hein, car Retailleau, notre nouveau ministre de l'Intérieur, a promis de faire passer l'enfermement à 180, voire 210, voire 480 jours. Donc voilà, on est sur une surenchère fasciste, hein, de l'enfermement. Et on voit aussi des projets de construction de CRA qui se multiplient, qui ont eu lieu, hein, dans les années, enfin, à partir de Collomb, hein, en 2018. Et tout autant que se multiplie répression, on voit que la réplique antifasciste fonctionne aussi, puisque des collectifs sont en train de se créer à Béziers, à Strasbourg, à Montpellier. Et la lutte contre les constructions, elle était dans les rues de Dijon grâce au collectif anti-CRA de Dijon, qui avait organisé une manif ce samedi 26 mai. On écoute un petit son.
On va lire des témoignages qui racontent leur quotidien, leur désespoir, leur résistance. Ces témoignages, ils sont issus de ce livre qui s'appelle CRA, 115 propos d'hommes séquestrés. Le titre, c'est 115 propos d'hommes séquestrés. Et utiliser le mot séquestré, ça nous paraît important. C'est ça qui montre le manque d'humanité, le manque de légitimité à enfermer ces personnes et pour ne pas se cacher derrière le mot retenu. Stop déportation, liberté de circulation. Stop déportation, liberté de circulation. Stop déportation, liberté de circulation. Aussi nombreux, nombreuses, c'est trop cool. Et donc aujourd'hui, si on est tous réunis, c'est parce que clairement c'est un manque flagrant d'humanité. Ce sont les mots de la Cour européenne des droits de l'homme, alors qu'elle condamne une fois de plus la France pour avoir enfermé des milliers d'enfants dans les CRA, et ce jusqu'en 2024. Mais nous y reviendrons. C'est aussi ce que nous ressentons aujourd'hui, et les mots sont faibles. Quand nous voyons que dans notre pays, on enferme injustement des personnes dans ces CRA pourris, et pas parce qu'elles ont commis un crime ou un délit, non, uniquement pour des raisons administratives. Oui, vous avez bien entendu, parce qu'elles n'ont pas les bons papiers, pas de renouvellement de titre de séjour. Aujourd'hui, nous venons crier notre rage et notre indignation contre la construction d'un énième CRA à l'envi. Centre de rétention administrative. Et dit comme ça, c'est sûr, ça fait pas peur. Et pourtant, on y enferme, on y séquestre des personnes, des familles, des enfants isolés qui doivent attendre si oui ou non, elles seront expulsées du territoire. L'attente peut être longue. Alors que ce n'était que 10 jours d'enfermement maximum en 93, on est aujourd'hui à 90 jours. Et Retailleau, le gros con, voudrait le faire passer à 485 jours d'enfermement. Retailleau, qui d'ailleurs sera là lundi 28 avril à 18h pour une réunion publique à Longwy, à l'espace Jean Bouet, et on appelle à un rassemblement casserolade devant l'espace Jean Bouet ce lundi à 17h30. Wouhou ! Souvent, les personnes ne sont pas expulsées car il n'y a pas d'accord avec le pays d'origine, mais en attendant, elles peuvent avoir perdu leur travail ou leur logement. Et si les CRA ne sont pas officiellement des prisons, tout y ressemble, en pire.
Et justement, un de ceux-là, un de ces CRA, est prévu à Longwy, Ouge, de 140 places, sur le site de l'aéroport de l'ex-BA 102, à côté de l'école de gendarmerie, avec un budget prévisionnel de 40 millions d'euros d'argent public seulement pour la construction. Les travaux devraient débuter en avril 2025, mais finalement, ils ne commenceront pas avant le mois de juin et se terminer a priori en décembre 2026.
Et on espère que le vent de Dijon va arracher les murs d'écras jusqu'à leur effondrement. C'était un petit reportage de la manif à Dijon.
Et on souhaite une longue vie à la lutte contre l'écras à Dijon. Et on vous invite à regarder le travail des collectifs anti-écras. Il y en a un peu partout en France qui tiennent des blogs, qui publient des témoignages et qui surtout relaient la lutte des personnes à l'intérieur. Et on rappelle, liberté pour tous les prisonnières et les prisonniers.
Et toujours au national, on parle dans le même sujet du mouvement DDPF.
Alors si vous écoutez les médias macronistes ou les médias d'extrême droite aujourd'hui, c'est-à-dire la quasi-intégralité des médias en France, vous ne pouvez pas passer à côté de cette information. Aujourd'hui, la police antiterroriste notamment a interpellé au moins 25 personnes en France, en région parisienne, à Marseille, à Lyon et à Bordeaux. Suite aux actions menées depuis le 13 avril dernier contre des prisons, des véhicules ou des domiciles de membres de l'administration pénitentiaire. Le PNAT, donc le parquet national antiterroriste, s'est saisi d'au moins 15 faits ayant eu lieu à Agen, Réau, Nîmes, Valence, Nanterre, Villepinte, Aix-Luynes, Lyon-Corba, Marseille, Tarascon, en Isère et ailleurs. Des faits allant de simples tags à des incendies volontaires ou des tirs à balles réelles qui ont touché donc des biens, mais pas des personnes. Le PNAT a donc ouvert des enquêtes pour des faits extrêmement lourds. Association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste commise sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation en bande organisée, etc. etc. Les moyens d'enquête mis en place en deux semaines ont été considérables. Il y a eu plus de 200 enquêteurs, 206 scellés analysés par la police scientifique. 10 millions d'identifiants téléphoniques ont été criblés et 90 techniques spéciales d'enquête réalisées. C'est très clair, les personnes interpellées vont prendre très cher et l'État réaffirme qu'on ne doit pas toucher à ses prisons ni à son personnel pénitentiaire et justifie bien sûr tout ça au nom de la lutte contre le narcoterrorisme. Mais ce qu'on n'entend pas derrière ces agitations sécuritaires, réactionnaires et procarcérales politico-médiatiques, ce sont les revendications qui ont émergé dès le début au nom du fameux et désormais connu DDPF pour défense des droits des prisonniers français, des revendications politiques donc contre les conditions carcérales inhumaines dans les prisons françaises. Dans le texte communiqué sur le groupe Telegram du même nom, hein, DDPF, et depuis lors fermé, on peut y voir la détresse des prisonniers et prisonnières et des conditions qui se dégradent en permanence. Alors notamment, ils sont témoignés les problèmes liés aux heures de promenade, le coût des cabines téléphoniques ou même l'accès aux cabines, la suppression d'un certain nombre d'activités, la violence des surveillants qui frappent, parfois viol, parfois tue, les pressions psychologiques ou physiques, les suicides. Tout ça, c'est dans le communiqué lié aux actions du DDPF. Alors aujourd'hui en France, on le rappelle, en 2025, il y a un nouveau triste record. On a plus de 80 000 détenus pour 62 000 places, avec une moyenne de 130% de taux d'occupation et une moyenne de 160% d'occupation pour les maisons d'arrêt, dont certaines vont jusqu'à 200% d'occupation. 5000 détenus dorment au sol avec des matelas au sol. L'insalubrité est quasiment partout dans les maisons d'arrêt. Selon l'OIP, l'Observatoire international des prisons, on compte en France en moyenne un décès tous les 2 à 3 jours, la plupart du temps par suicide, mais pas uniquement. Le comité anti-torture du Conseil de l'Europe s'est dit profondément inquiet des conditions carcérales françaises, c'est dire. Bref, on pourrait parler des heures de ces chiffres assez terribles qui touchent les prisons françaises. C'est donc bien, en tout cas, contre ces conditions inhumaines que les actions de ces dernières semaines se sont inscrites. Et là encore, l'État utilise des moyens antiterroristes pour terroriser le mouvement anticarcéral dans son ensemble. Alors ici, on l'exprime, solidarité avec les interpellés d'aujourd'hui. Et puis, parce que ça fait pas de mal, crève la tôle.
Et on passe maintenant à notre rubrique
locale.
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 Avec un petit sujet sur le meurtre d'Aboubacar.
Et oui, on va écouter une prise de parole qui a eu lieu à Bellecour ce soir même, où un rassemblement contre l'islamophobie était organisé à 18h30 en mémoire d'Aboubacar. On remercie Adeline, notre envoyée spéciale sur place.
C'est un crime islamophobe. Ce soir, nous sommes là pour rappeler que
Aboubakar, qui sait, a été tué parce qu'il était musulman. Il était en train de faire sa prière, il a été massacré au couteau. Son assassin a dit qu'il souhaitait recommencer et il s'est échappé tranquillement. Aujourd'hui, on a appris qu'il s'était rendu en Italie. Nous demandons une attention à la famille d'Aboubakar Cissé pour réclamer justice pour Aboubakar, justice pour Aboubakar, justice pour Aboubakar. Nous demandons à ce que le parquet national antiterroriste soit saisi. Parce que ce crime, encore une fois, c'est un crime de haine, c'est un crime raciste, c'est un crime islamophobe. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux poids deux mesures dans le traitement judiciaire des crimes de haine. Aujourd'hui, il faut que le parquet national antiterroriste soit saisi, comme le demande la famille de la victime. Mais ce soir, nous avons tenu à faire ce rassemblement, aujourd'hui, à la tête d'associations qui sont toutes et toutes, des associations non pas partisanes, mais engagées politiquement, c'est aussi parce que nous voulions avoir une parole libre et une parole politique. Parce que ce crime n'est pas un crime comme un autre, c'est un crime politique, c'est un crime qui intervient dans un contexte politique particulier. Alors ce soir, nous n'épargnerons pas les responsables politiques du contexte qui a permis ce drame. En premier lieu, il faut dire que M. Retailleau doit avoir honte. M. Retailleau, depuis quelques mois, il est au gouvernement, et lorsqu'auparavant c'était un parfait inconnu, a contribué à distiller jour après jour, plateau télé après plateau télé, interview après interview, a contribué à distiller la haine raciste, la haine islamophobe, la haine contre les Algériens, la haine contre les musulmans.
Et on va écouter une deuxième prise de parole de ce rassemblement de ce soir.
La compassion, mais nous, c'est gentil, mais on a pas besoin de compassion, on a besoin d'égalité de droit. Et on l'a réclamé, je me rappelle.
Dans toute la France, il faut bouger.
J'étais à Valence en train de préparer le comité d'appel de la marche sur Dromardèche. Et il y avait une discussion avec Jean Costil, puis à son âme, il nous a quittés. Et je lui disais, on va faire la marche pour l'égalité. Et je lui disais, non, on ne veut pas la marche pour l'égalité, on veut la marche pour l'égalité des droits. Parce que l'égalité, c'est trop beau. C'est des concepts bateaux, tu mets n'importe quoi dedans, le résultat, tu n'as pas des droits. Tu n'as pas les mêmes droits. Résultat des courses, on régresse. C'est-à-dire, au lieu de gagner des droits, on régresse. Aujourd'hui, c'est notre existence qui est en danger. C'est notre vie qui est en danger. C'est nos femmes, nos sœurs, nos filles. Nos mères qui sont en danger, on veut leur mort sociale. On a des gens de gauche, de droite. Tout à l'heure, Tamouz a cité quelques-uns. À part Valls, il y en a eu d'autres. Vincent Payon, Najet Loubekassem qui est là, qui se pavane encore dans les parages. Pourquoi elle n'a pas aboli le décret? Pas ce décret, c'est la circulaire qui interdit aux mamans voilées d'accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires. La gauche et la droite, ils se sont alliés là-dessus.
C'est conclu, c'est pareil.
La loi contre la loi du 15 mars 2015. Combien de gens ont voté?
Ils vont massacrer des femmes.
Monsieur André Gérard, qui était communiste, qu'on a aidé à gagner la Fédérique Vénitieux à plusieurs reprises, il nous fait voir de face et qu'il nous crache dessus. Il se retrouve avec la facho, avec l'extrême droite, pour nous cracher dessus et pour nous pendre la loi sur le NIRCOM, soi-disant, qui était soi-disant.
Je me permets de lire les mots de Fatima Wassak pour clore ce petit sujet qui encourage à la lutte. Je cite du coup. Vendredi dernier, le 25 avril, un jeune homme a été assassiné dans la mosquée de la Grand Combe, dans le Gard. Les autorités parlent d'un acte islamophobe. C'est une victoire quand on pense à toutes ces années où ont été diabolisés ceux qui parlaient d'islamophobie. La lutte n'est jamais vaine. Mais l'État Macron, Darmanin, Retailleau ne va rien faire pour protéger les musulmans de ce pays endeuillé et terrorisé. Il va bien sûr continuer de les stigmatiser à coups de « abat le voile » scandé en meeting. La seule solution pour rendre ce pays respirable pour les musulmans musulmanes et faire reculer la fascisation générale, c'est de reconstituer un large front populaire contre l'islamophobie porté par les musulmanes eux-mêmes et toutes celles et ceux qui refusent le fascisme qui vient. Voilà. Et on passe à l'autre, au dossier du jour.
Oui, pour introduire notre long reportage du jour, on fait d'abord une petite pause musicale avec Free Congo de Gradour, Nino, Josman, Youssoupha, Kalash, Criminel et Damso.
Des millions de morts, on orgueille vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. Pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kagame, sans M23. Des millions de morts à l'est du Congo, et pourtant personne n'en parle. On envoie nos frères mineurs au combat, se faire tuer pour du cobalt. Toutes ces richesses nous font du mal, on n'a jamais demandé ça. J'aime pas le bon Dieu de me faire ainsi. C'est la guerre, je te fais pas tes seins. C'est la guerre, je te fais pas tes seins. Si j'en parle trop, ils vous trompent des seins. Et nos mamans se font violer, ne rentreront peut-être pas à la maison.
Il va mal, que mon peuple est révolté, que les diamants profitent à l'Occident, je suis débordé. Je peux pas faire grand chose, écoute nos cœurs qui se brisent. Je me demande d'où vient le problème d'un pays aussi riche. La faute à ceux qui voient leur poche avant la société. Mais c'est l'humain, 70% craque pour le gros papier. Je demande la paix dans le monde comme une miss. Même à Gaza, des mots mais en masse. Un peu d'humanité, c'est la base. Tout n'est que vanité, yeah. Tout s'efface.
Sors pas de dodo comme système à tanga. Soir c'est la veillée, des familles effrayées. J'ai le cœur endeuillé. Quand ce que mon pays peu à peu s'effeuille, faudrait qu'on se réveille. Sors pas de dodo, j'ai l'esprit à l'ouest. À cause de tout ce qui se passe à l'est du pays, les milices ne veulent pas lâcher du lest. Des millions de familles, des enfants y restent. Guerre de richesse et de sang sur ma terre de richesse et de sang. Les mines, les minerais, les mines, les minéraux. Le même numéro des crimes ignorés, malgré le sang de nombreux innocents.
Message pour mon pays, c'est le millième. J'ai pas la couleur de peau d'Eminem. Alors les GT vont pas s'agiter quand on me massacre pour des minerais. Congo Mbokaba papa, Congo Mbokaba mama. Mais à Goma j'ai vu des barbares. Les sapeurs ont des gilets pare-balles. Paul Kagame, faut le condamner. Mais aussi faut reconnaître ceux qui dirigent le Congo. N'aime ni le Congo, ni les Congolais.
Des millions de morts, on orgueille-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans Kagame, sans M23.
Le Paul d'a tué plus que Hitler. C'est des Congolais donc ça compte pas. Goma Norkivu ça bombarde, Free Congo tous les jours mon combat. Sans tuer le Mumba ils nous ont rendu une dent. Chez nous y'a que des morts, des pleurs et du sang. On meurt pour des diamants, cobalt et coltan. A la moindre escarmouche comme le président. Ne jamais trahir le Congo qui vivra verra. Si Kagame n'est pas jugé, crois-moi que Dieu le fera.
Je suis venu, j'ai vu, j'ai failli pleurer. J'ai la haine, mon âme est écœurée. J'suis fatigué d'avoir mal, comme une envie de prendre les armes. Mais si j'prends les armes, c'est plus trop la thématique. La nation désunie par les Nations Unies. On parle de Paul, mais parlons des autres aussi. Les pupilles sont humides sous les fossiles. J'suis pas là pour chanter la pitié, j'm'aurais sans doute empoisonné. Vrai Congolais n'a pas peur de la mort, encore moins si c'est pour l'unité.
Des millions de morts, on orgueille-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. Pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans Kagame, sans M23. Des millions de morts, on orgueille-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. Pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans Kagame, sans M23.
Et vous êtes toujours sur Radio Canut 102.2. On vient d'écouter donc une petite musique Free Congo pour introduire notre long reportage du jour qui est sur le rassemblement qui avait lieu samedi, organisé par Génération Lumière pour la paix en République démocratique du Congo. Et on l'écoute tout de suite.
La paix !
Au Congo !
On veut la paix !
Au Congo !
On veut la paix !
Au Congo !
En fait, le 5 juin 2025, je vais avoir 30 ans. Et c'est exactement l'âge de la première et la deuxième guerre du Congo. Et en 30 ans, en ce qui me concerne, j'ai compté tout à l'heure, j'ai changé 5 fois de pays. Si j'ai eu la chance, moi, de rester en vie, ça n'a pas été le cas pour au moins 6 millions de mes compatriotes qui, comme moi, n'ont rien fait de plus que de naître au-dessus d'un sous-sol envié. 6 millions de Congolais ont été exterminés parce que leur seule présence au-dessus du sol congolais représente une gêne pour les bras armés des vendeurs de cailloux et des minerais. Ces bras armés, autrefois appelés officiers coloniaux, aujourd'hui appelés bandes armées M23, dont le commandant en chef est Kagame ou Museveni, ça dépend d'où vous vous trouvez au Congo. Donc l'existence, la seule existence de ces bandes armées suffit pour redire que non, le colonialisme n'est pas une page sombre de l'histoire, parce que c'est pas une page qui est tournée, elle est encore bien présente.
10 millions de morts, ça suffit. 10 millions de morts, ça suffit.
Je suis David de Maenda Kitoko et je suis président de l'association Génération Lumière, franco-congolaise de par sa composition et son existence juridique, qui milite contre l'extractivisme des minerais et qui appelle à une autre manière d'habiter la terre.
Je m'appelle Jordi, je suis membre de Génération Lumière et responsable du plaidoyer juridique. Et dans le cadre d'ailleurs de ce plaidoyer, qui est à la fois mi-juridique, mi-politique, on a organisé cette réunion publique, comme on l'a appelée, donc marche pour réunion publique, pour sensibiliser, continuer à parler de la guerre à l'est de la RDC, puis de faire parler aussi d'autres causes qui sont liées à la question extractiviste, la question antifasciste et anti-impérialiste qui nous ont soutenus dès le départ et qui continuent encore de nous soutenir aujourd'hui.
Nous sommes ici pour rappeler que ce qui se passe en République démocratique du Congo n'est pas un conflit ethnique, il s'agit d'un génocide. Un génocide qui compte aujourd'hui plus de 6 millions de morts, des millions de vies massacrées dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. C'est un silence mis en place pour organiser un projet politique, économique et impérialiste. C'est là que notre parole est nécessaire et que notre réponse doit être antifasciste. Parce que le fascisme ne se limite pas aux portes de l'Europe. Il existe aujourd'hui, il est actif, structuré et Paul Kagame en est l'un des visages. Comme dans chaque régime fasciste, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Dans l'est de la RDC, le viol n'est pas un dommage collatéral. C'est une arme de guerre. Des milliers de femmes, de filles, d'enfants sont violées, mutilées, brisées par la milice du M23, soutenue et financée par Paul Kagame lui-même. Mais pendant que ces crimes sont commis, les multinationales se gavent. Pendant que les femmes sont violées, pendant que les enfants meurent dans les mines, le coltan, le cobalt, l'or et le lithium quittent la RDC pour finir dans nos smartphones, les batteries ou bien les voitures électriques. C'est le sang des Congolais et des Congolaises qui finance la transition écologique des puissances occidentales.
Votre confort, parce que le Congo, c'est quand même le deuxième producteur du cuivre mondial. Vous n'avez pas d'électrification sans cuivre. Le coltan, vous allez le trouver, c'est l'étain et autres, dans tous les produits électroniques, dans les cartes mères. Vous n'avez pas des cartes mères sans l'étain qui permet de coller, délier, etc. Le cobalt, c'est dans les batteries. Voilà un peu la place centrale aujourd'hui de la RDC sur cette nouvelle ruée minière. Elle se fait aujourd'hui par vraiment une industrialisation de la mort. On tue à la chaîne dans ce pays. Parce que quand on parle des 6 millions de morts minimum, il faut se dire que c'est chaque année au moins 200 000 personnes tuées. L'extractivisme, je vais le dire avec nos mots, c'est l'exploitation massive et intensive des minerais chez nous et qui, en fait, installe un système politique et une instabilité permanente à son service. On pourrait dire que c'est le synonyme du néocolonialisme aujourd'hui dans nos territoires. Le système colonial aujourd'hui s'est organisé de sorte à ce qu'il n'ait plus besoin d'envoyer ses soldats sur place. Et donc, ce qu'on fait, c'est financer des bandes armées. On est à plus de 200 bandes armées dans ce territoire, tous positionnés là où se trouvent les minerais. Et ensuite, on a des états. Moi, j'appelle ça des nouveaux commandants-chefs des officiers coloniaux qui sont aux alentours, qui sont des pays où transitent les minerais. Parce qu'on s'est arrangé à faire en sorte que d'avoir une conscience tranquillisée en disant « Oui, mais nous, on refuse les minerais descendre dans notre territoire. » Mais par contre, comme le Rwanda, ce n'est pas un pays en guerre, comme l'Ouganda, ce n'est pas un pays en guerre, alors les minerais qui quittent ce pays-là, ce sont des minerais safe. À circuler, rien à voir. C'est clean.
Le Rwanda, qui est aujourd'hui le premier producteur du coltan, donc produit plus de coltan que la RDC, qui pourtant en détient en quantité beaucoup plus grande au niveau mondial, est un reseller et en fait est devenu en fait une plaque tournante des minerais de contrebande. Ce qui fait que ce système n'est pas financé par le Rwanda lui-même. On s'est rendu compte que derrière le Rwanda, il y a des accords qui permet de financer son armée. Son armée qui aujourd'hui est au Congo. On estime entre 4000 et 6000 le nombre de soldats de l'armée rwandaise qui sont sur le Congo, précisément sur la ville, les deux villes de Goma et de Bukavu. Donc il y a les questions des coopérations militaires qui sont à la fois nationales mais aussi au niveau européen, parce que l'Europe finance la formation de l'armée rwandaise. Et puis il y a aussi la question des accords commerciaux, tout simplement, parce que en utilisant son image auprès des États étrangers, le Rwanda a réussi à se faire passer comme le fournisseur des minerais qui transitent par son pays pour aller vers l'économie monde, et notamment en Europe, et notamment via des entreprises européennes telles que l'entreprise Transis, qui est une entreprise luxembourgeoise, qui est directement approvisionné par le Rwanda. Donc en fait, ce qu'on dénonce, c'est tous ces non-dits, tout ce blanchiment en réalité des minerais qui se déroulent, et qui se déroule aussi en France, tout simplement parce que l'une des sociétés par lesquelles le transit est organisé est une société qui a son siège social à Paris, rue Saint-Honoré, depuis 2017.
L'acheminement durable, c'est comme ça qu'ils appellent l'acheminement durable des minerais. Il y a cet accord-là et puis il y a un accord qu'on appelle l'accord Global Gateway qui est inscrit dedans. Ça comprend 1 milliard d'euros, plus d'un milliard d'euros pour faire en sorte qu'il y ait des cheminements, viables pour l'Europe dans un monde en compétition de qui va accéder à telle ressource ou pas. Ça, c'est les réponses que j'ai eues de la Commission européenne par des députés qui ont posé la question. Ce qu'elle disait, la commissaire, c'est qu'aujourd'hui, les minerais qui quittent le Rwanda, 80% de ces minerais-là vont d'abord en Chine. Donc, en fait, on est dans un état de concurrence. Donc, l'idée, c'est de concurrencer aussi la Chine.
Génocide au Congo, UE complice.
Au moins 6 millions de morts en 30 ans, ça représente chaque année 200 000 personnes arrachées à la vie, ce qui fait par jour 548 personnes mortes, chaque jour, pendant 30 ans. Et je veux que vous sachiez, qu'ils sachent aussi que nous portons leurs visages, leurs histoires, leurs cris étouffés, et nous refusons de nous taire. Aujourd'hui, nous amorçons une démarche populaire et sans frontières pour dire stop. Non, la France ne peut pas continuer à verser des centaines de millions d'euros au Rwanda pendant que le Rwanda alimente les massacres à l'est du Congo. Non, la France ne peut pas continuer à sourire aux bourreaux pendant que des enfants meurent pour du coltan ou de l'or. Nous ne voulons pas implorer pour vivre. Nous exigeons. Nous exigeons que la vie humaine passe avant les profits. Nous exigeons un embargo européen sur les minerais de sang.
Et vous, c'est quoi vos revendications par rapport à tout ce système? Vous demandez quoi concrètement?
Il y a plusieurs mesures. Demander un embargo sur les mines exploitées dans ces pays-là, donc à la fois le Congo et le Rwanda. D'exiger de la transparence, et une transparence qui soit une transparence civile, donc peut-être des organisations d'experts avec la société civile qui va encadrer, certifier en fait la production des mines. Mais fondamentalement, Génération Lumière est contre l'économie d'extraction, l'extractivisme, ce qui fait que à long terme, la solution, c'est de proposer aussi ce qu'on appelle un droit à réparer, c'est-à-dire le fait de demander à ce que les engins technologiques qui sont déjà produits soient aient une durée de vie plus longtemps, ce qui permet de baisser d'une certaine manière la demande à mine, et d'encourager la réutilisation, le recyclage des matériaux déjà produits. Et puis au fur et à mesure, en fait, de demander qu'il y ait des mesures contraignantes qui interdisent le financement de projets extractivistes sans étude d'impact, non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau local, qu'il y ait vraiment des mesures qui puissent interdire l'ouverture de nouvelles mines, parce que les conséquences de l'exploitation des mines, la pollution de l'eau, la pollution, l'accaparement des territoires, etc., aujourd'hui presque universel, c'est-à-dire un peu partout dans le monde, c'est exactement les mêmes conséquences que l'on retrouve, ce qui fait qu'on demande aussi qu'il y ait des solutions plus contraignantes pour bloquer des nouveaux projets d'exploitation minière qui ne vont pas cesser, parce que même en Europe, en France d'ailleurs aussi,
des projets sont en cours et vont parfois s'installer sans qu'on puisse évaluer concrètement les conséquences, qui sont très dramatiques parce que c'est une suppression progressive du cadre de vie tel qu'on le connaît avec les rivières. Ce qui compte pour nous, c'est d'abord de prendre en compte ce qui est actuel, donc l'actualité telle qu'elle se présente, mais aussi d'envisager des solutions qui vont beaucoup plus loin en fait que l'actualité, qui vont vraiment sur une autre manière de repenser la transition écologique et une autre manière de repenser surtout la place du numérique dans la transition écologique. L'été dernier, c'est-à-dire à partir du mois de juin jusqu'à mois de juillet, pendant 3 semaines, on a organisé une marche qui est allée de Besançon à Strasbourg. Et l'idée de cette marche, c'était de faire des arrêts progressifs, de rencontrer des associations locales, de sensibiliser, d'organiser des événements sur place, de dialoguer sur ce qui se passe à l'Est, sur l'extractivisme en général, sur les luttes aujourd'hui par rapport à la mondialisation et à ses conséquences, et de ne pas préférer la ville au-delà des communes, etc. Vraiment de multiplier les lieux d'arrêt pour vraiment dialoguer et discuter. Ce qui a été très riche parce qu'on a rencontré énormément d'associations sur énormément de questions. Et l'idée de cette marche était de porter aux eurodéputés une proposition de résolution qui précisément avait pour rôle de dénoncer ce qui se passe à l'Est, de demander à la Commission d'agir. On a réussi à être associé pendant tout le cheminement qui a mené février dernier au vote justement de la résolution par le Parlement européen. Alors, une résolution, malheureusement, n'a pas de valeur contraignante. C'est surtout une déclaration d'intention, mais qui a une très grande valeur symbolique parce qu'elle est traduite dans toutes les langues européennes, parce qu'elle est diffusée officiellement. Et parce qu'elle lance, elle adresse un message à la Commission pour lui demander d'agir. Toutes les solutions qu'on a proposées sur un texte par rapport aux questions d'extractivisme dépendent encore aujourd'hui de la Commission. Mais entre-temps, ce qui a quand même été fructueux, c'est que le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe un peu l'exécutif des États européens, a quand même avancer d'un pas, on va dire, donc en adoptant certaines sanctions à l'égard de certains acteurs qui sont directement impliqués par rapport à ce qui se passe à l'Est, mais aussi certaines entreprises. À la fin du mois de mai, il va y avoir aussi une manifestation avec réunion publique du même type qui va se dérouler à Lyon. Entre-temps, Génération Lumière travaille surtout en ce moment sur une pétition que l'on va déposer au Parlement européen pour justement actualiser un peu les discussions avec la Commission européenne. L'idée, c'est de lui demander des explications, qu'elle s'explique juridiquement, parce qu'il y a des textes européens qu'elle transgresse en fait par son silence, par son défaut d'action. Et cette mesure a pour but de faire pression pour obtenir des changements. On va aussi peut-être avoir une discussion avec la mairie parce qu'on voudrait organiser au mois d'août une commémoration des crimes à l'Est qu'on appelle nous le génocide, c'est-à-dire le génocide pour des gains économiques. Et le but de ce moment, c'est aussi de rencontrer des responsables pour leur présenter une feuille de route sur les mesures qui de justice, en fait, de réparation au niveau international que l'on propose, que l'on porte. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que la mairie ou la région soit associée à cette commémoration qui va se dérouler vers le mois d'août. Alors, nous avons un site internet, donc generationlumière.fr, qui relaie l'actualité, ce qu'on fait et ce qu'on a fait auparavant déjà. Et puis, au quotidien, on a une petite équipe qui gère un peu la com, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, essentiellement. Nous vous invitons simplement à tous ceux qui sont sensibles à la justice, sont sensibles à toutes les questions de solidarité internationale, toutes les questions de paix, tout simplement, se joindre à cette lutte, en fait, qui va être longue, qui va prendre beaucoup de temps et qui cause, en fait, des dégâts qui sont déjà assez lourds à supporter, parce que à Lyon, il y a des rescapés de ce génocide, il y a des gens qui ont vécu dans leur chair et dans leur sang ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à se rapprocher de nous, à venir à nos manifestations et à discuter avec nous, parce que le but, c'est vraiment de démontrer qu'en réalité, c'est aussi l'occasion d'avoir des points de convergence et de découvrir en fait que le monde dans lequel nous vivons fait de nous en fait des victimes collatérales des projets que nous n'avons jamais voulu et qui en réalité ne sont pas pensés par nous et pour nous, tout simplement.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi 28 avril et on vient d'écouter un reportage sur la marche qui a eu lieu samedi organisée par Génération Lumière pour la paix en République démocratique du Congo. Donc la dernière chanson qu'on a entendue, c'est une chanson qu'ils ont beaucoup chantée pendant la marche de 3 semaines qu'ils ont fait, dont ils ont parlé dans le reportage. Et pour leurs prochains événements, il y aura de nouveau une manifestation le 17 mai à Lyon. Et comme on l'a entendu, une commémoration qu'ils essayent d'organiser en août. Pour l'instant, la date n'est pas fixée, mais en tout cas, on vous invite à suivre ces initiatives contre donc l'extractivisme colonial et pour la paix en République démocratique du Congo sur les réseaux de Génération Lumière, donc sur Instagram, Facebook principalement. Et on passe maintenant à l'agenda.
Et oui, mardi 29 avril, à savoir demain, il y a un rassemblement organisé par le collectif Solidarité entre femmes à la rue devant Grand Lyon Habitat à 18h. Donc devant Grand Lyon Habitat, ça se trouve à La Part-Dieu, place de Francfort, c'est côté Villette.
Le mercredi 30 avril, ouais, il y a des trucs un peu tous les jours cette semaine, préparez-vous. Donc le mercredi 30 avril, à partir de 17h jusqu'à 22h, il y a un banquet populaire et festif organisé place Mazagran, organisé par le Clip Guillotière. Donc le Clip Guillotière, c'est le comité de lutte d'initiative populaire de la Guillotière, hein, qui est un comité de quartier qui s'est créé suite à la séquence électorale de juin, où il y a eu un peu la peur du danger fasciste suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce comité de quartier, il a décidé d'organiser un banquet place Mazagran, puisque la place Mazagran, depuis de nombreuses semaines quand même, et notamment ses usagers et usagères, subissent des opérations policières et sécuritaires particulièrement violentes et largement disproportionnées. Donc l'idée, c'est d'occuper la place, d'y manger, d'y faire de la musique, de s'y parler. Il y aura un certain nombre de collectifs, de camarades qui seront présents sur cette place, et ça permet aussi d'envisager un petit peu ce qui se passera le lendemain.
Et en parallèle, il y aura le réveillon des luttes annuel organisé par Solidaire Rhône, c'est à 18h au bar du Biristan à Gratte-Ciel à Villeurbanne. Et puis le premier, qu'est-ce qu'il y a le premier ?
C'est la fête des travailleurs et des travailleuses, bien sûr.
Des droits du travail.
C'est pas la fête du travail.
C'est pas la fête du travail du maréchal Pétain, non. Mince.
Vous êtes toujours sur Radio Canu.
Voilà.
Le 1er mai fête pour la lutte des travailleurs et travailleuses.
On peut quand même dire qu'il y a deux appels à des cortèges différents. Évidemment, il y aura les cortèges syndicaux habituels, mais il y a le mouvement de la culture qui appelle à faire un cortège culture, dont le rendez-vous est à 10h au 1 cours Albert Thomas. Et puis, il y a aussi le mouvement pour la Palestine, hein, qui appelle à un cortège partira à 10h30, plutôt vers la fin du cortège de la manifestation.
Ouais. Et au sein même du cortège, il y aura une troisième section qui est un cortège anti-impérialiste à l'appel de la LJR et de la Fosse au Lion. Voilà.
Et ce 1er mai également, il y aura un cortège du DAL 69, le droit au logement 69. Et on rappelle par ailleurs qu'ils organisent toujours un piquet anti-expulsion tous les matins, excepté le 1er mai, puisque c'est férié, pour empêcher l'expulsion de familles à Moulins-Avant. Dans le 8e, à partir de 5h30. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre ces piquets anti-expulsion. Ça fait plus de 3 semaines qu'ils y sont tous les jours, ils et elles y sont tous les jours, et que pour l'instant ça marche, l'expulsion n'a pas lieu.
Et après la manifestation qu'on espérera massive et déterminée, on se retrouve par ici, à côté de la radio, place Satonet, pour le traditionnel rendez-vous de l'après 1er mai pour boire un coup et manger un petit bout ensemble.
Ça, c'est vachement bien vu de le dire quand même, ce truc-là, parce que c'est quand même la radio qui l'organise.
Exactement.
Très malin.
Oui, Radio Canu sera en direct sur la, depuis la place Satonet après la manif.
Et le 2 ?
Et le 2, alors, mais qu'est-ce qu'il y a, le 2 ? Le 2, il y a la caisse de solidarité que vous connaissez forcément, hein, qui s'organise, qui lutte contre la répression policière, judiciaire et carcérale, et qui organise donc la solidarité face à la répression, mais qui a besoin de sous. Donc, il y aura une grosse soirée à Grande Zéro que vous connaissez à Vouvant-Blain-la-Soie. Ouverture des portes dès 19h30. C'est une soirée organisée par le collectif Dérapage et c'est une soirée rap. Venez-y, nombreux et nombreux, avec des sous et pour faire la teuf.
Et le 3, donc ça sera le samedi, vous pourrez aller à la Disco Squad, ça se passera au Canular, à l'atelier des Canulars. À 14h, de 14h à 18h, il y aura des ateliers carto, de l'histoire des squats, une friperie. À 19h, une cantine végane qui est délicieuse, c'est annoncé. Et à partir de 20h, la fête. Voilà.
Et on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on vous dit évidemment à très très bientôt dans la rue. D'ici là, on vous laisse avec les bandes continues et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao.